Donc là, on va s'apprêter à commencer le Perek Mem Alef, chapitre 41 du Tanya. Et avec ça, on va marquer la cinquième phase du Tanya. Cinquième et dernière phase du Tanya. Donc quand je parle du Tanya, ça veut dire du Likuté Amarim. C'est quoi les quatre phases qu'on a eues jusqu'à présent? Première phase, c'était de chapitre 1 à 17. On a exploré l'âme divine, l'âme animale, ses combats, ses guerres, ses victoires. On a expliqué tout ça. Qu'est-ce que c'est le Benoni, qu'est-ce que c'est le Tzadik, quelles âmes animalisons, quelles âmes divinisons. On a expliqué un peu à peu près quelle était leur guerre. Ça, c'était le chapitre 1 à 17. D'accord ? Pour résumer en deux mots, le chapitre 1 à 17, c'est une histoire de deux âmes. D'accord ? L'âme divine, l'âme animale, des fois c'est une qui gagne, des fois c'est l'autre qui gagne. Ensuite, à partir du chapitre 18 au chapitre 25, au chapitre 21, c'était la deuxième phase du Tanya. Chapitre 18 à 21, on a expliqué des concepts théologiques. C'est-à-dire principalement, on a parlé de l'importance de la Emouna, de la croyance en Kadosh Baruch Hu. On a expliqué comment en vérité toutes les mitzvot, bien que leur nombre était de 613, mais en vérité on pouvait les découper en deux mitzvot, une positive et une négative. On a expliqué comment elles étaient toutes incluses dans les 10 commandements. Donc c'était très concentré, c'était trois chapitres très concentrés, dans lesquels on a beaucoup parlé de théologie. Ensuite, on a eu une troisième phase en Tanya, dans laquelle, dans cette troisième phase, on a expliqué le concept, comment, grâce le concept de la Ahava Mesuteret, l'amour caché qu'il y avait dans chacun parmi nous, et que grâce à cet amour caché que chacun avait vers la Kadosh Baruch Hu, on était capable de gagner la guerre. Ça veut dire qu'on a expliqué que même quand le Yetzer Hara a l'air plus fort que le Yetzer Tov, on peut toujours gagner la guerre grâce à cette Ahava Mesuteret. Donc en vérité, c'était cette deuxième et cette troisième phase que j'ai dit. En vérité, c'était dans le Tanya, c'est-à-dire d'un seul coup, donc c'était une seule phase. Ensuite, à partir du chapitre 25, on est rentré dans troisième phase, dans laquelle on a expliqué l'importance de la Simra. Rappelez, du chapitre 26 au chapitre 34 qu'on n'a d'ailleurs pas encore fait, on a expliqué l'importance de la Simra et la gravité de la mélancolie, de la tristesse. On a expliqué plusieurs types de mélancolie, comment on pouvait les combattre, et en passant on a parlé de Ahavat Israël, l'amour du prochain, mais en gros on a parlé de l'importance de la Simra, de la joie. Comment la joie c'était une grande base dans Torah et Mitzvot. Ensuite, à partir du chapitre 35, on a fait le résumé la semaine dernière, on a expliqué de l'importance de la kavana. On a expliqué que quand on fait une mitzvah, il y a le corps de la mitzvah et il y a l'âme de la mitzvah. Il y a la mitzvah elle-même, l'acte qui est le plus important. Pour reprendre l'exemple de l'oiseau, il y a le corps de l'oiseau. Et on a les ailes de l'oiseau. Les ailes de l'oiseau, c'est quoi? C'est la kavana. Donc on a expliqué du chapitre 35 au chapitre 40, on a eu 6 chapitres dans lesquels on a parlé de l'importance de la mitzvah et de la kavana. Ça, c'était les quatre premières phases du Tanya. Là, maintenant, on va rentrer dans une cinquième phase. Jusqu'à la fin du Tanya, ça va être la même phase. On va parler de la Kavana. Parce que jusqu'à présent, on est resté un petit peu sur notre fin, sur le concept de la Kavana. C'est-à-dire, on a expliqué que la Kavana, c'était très important, que la Kavana, c'était les ailes, la Kavana, ça nous est volé. Mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est la Kavana, comment on arrive à la Kavana. C'est-à-dire, un juif qui dit, voilà, moi maintenant, je fais Torah et Mitzvot, aujourd'hui, je mets les tefilines, j'ai pas de Kavana. Comment je fais pour avoir la Kavana? Qu'est-ce que c'est la Kavana? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ça, on n'a pas réellement développé parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était simplement, jusqu'à présent, de nous expliquer pourquoi la Kavana est indispensable. D'accord ? On a expliqué pourquoi la Kavana est indispensable. Mais on n'a pas encore expliqué jusqu'à présent qu'est-ce que c'est la Kavana et pourquoi c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'on va rentrer dans le chapitre 41.
Oh.
À partir du chapitre 41. Ah.
C'est moi qui apporte la faute.
C'est pour ça qu'à partir du chapitre 41...
Il faut préparer la bouffe, là, on peut travailler.
C'est trop imprimé déjà.
Ça va, Julien?
La forme est bien partie.
Ah, tu es gentil.
Direct Mem Alef, page Nounvav.
Là où? Nous.
Page 111. On a expliqué. Donc là, maintenant, à partir du chapitre 41, on est dans la dernière ligne droite, jusqu'à la fin du Tanya, la cinquième phase, comme ce que je viens d'expliquer. On va expliquer maintenant, un peu plus qu'est-ce que c'est la Kavana. On va développer plus qu'est-ce que c'est la Ahava, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Le chapitre 41, 42, 43, on va développer principalement la crainte de Dieu. puisque dans le Zohar, l'ordre est d'abord trilou ou chimou, d'abord la crainte après l'amour. On va expliquer pourquoi c'est très important de craindre Dieu. C'est une question qui revient très souvent, ça. Les gens disent, mais pourquoi on a besoin de craindre Dieu? Pourquoi on ne peut pas tout faire par amour? C'est un sujet qui est très compliqué, il faut expliquer, d'accord? Bon, il y a beaucoup de détails. On va prendre presque 3 chapitres pour expliquer, 41, 42, 43. À partir de la fin de 43 jusqu'à 44, on va expliquer l'importance de Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Là, aujourd'hui, on va commencer avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça, bien entendu, ça rentre dans le cadre de la Kavana, parce que c'est ça ce qui forme la Kavana. On avait expliqué que qu'est-ce qui forme la Kavana? C'est l'amour et la crainte de Dieu, le positif et le négatif. C'est ça ce qui forme la Kavana, c'est ça ce qui forme le Lishma. Donc, ça veut dire que ça va être un sujet un peu différent de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, mais le thème reste le même. Le thème reste le même, expliquer l'importance de la Kavana. Le chapitre 41, il commence par Bram.
Bram.
Bram. Ici.
Ah, Béram.
Béram.
Ah,
alors, la seule fois dans laquelle l'Admor HaZaken a commencé un chapitre avec le mot Bram, c'était le chapitre 26. Le chapitre 26, l'Admor HaZaken avait commencé avec Bram, et il avait jeté une bombe. Pourquoi? Jusqu'au chapitre 26, tout était très clair. On avait expliqué qu'est-ce que c'est le tzadik, qu'est-ce que c'est le bénoni, etc. Tout était très clair, tout était carré, quelle est la guerre, comment on gagne la guerre, on peut gagner la guerre, tout était carré. Viens au chapitre 26, quelle bombe il a jeté? On vient de le dire. Il a dit, le plus important, c'est la simcha. Et si on n'a pas la simcha, tout ça ne vaut rien. Et là, l'Admor HaZaken, il va aussi jeter une bombe.
Donc, Béram, c'est une... Béram, c'est... quand il appuie sur le bouton, l'archengar, une bombe.
Quand on dit Bram, c'est-à-dire cependant...
Voilà, Béram, c'est normalement
cependant.
Ça veut dire,
quoi, cependant? Ça veut dire après, tout ce qu'on a expliqué...
Malgré tout, il y a un truc à te dire qui va te scier.
Et que sache que tu crois avoir tout compris, mais en vérité, il y a encore beaucoup à comprendre.
Il y a encore une galère qui arrive.
Il dit comme ça, Bram, cependant, Tsarich Liot, les Icar Antamid. Une personne doit se rappeler constamment. Donc on va parler de quelque chose qui est tellement important qu'il faut se le rappeler constamment. On a tendance à l'oublier, il faut se le rappeler constamment. Reshita Avoda, le début du service. Veikara, et le principal du service. Veshorcha, et la source, la racine du service.
Après
trois
tout,
termes.
Quoi.
On a trois termes ici.
Avant, pendant, après.
Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. On a trois termes. On a le Reshita Avoda, c'est-à-dire le début du travail. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand une personne va faire, je vais participer à une course, je vais faire à peu près 10 000 pas. D'accord? Le premier pas, c'était le premier pas, mais le premier pas, c'est pas les 10 000. Il vaut rien le premier pas par rapport aux 10 000. Ça c'est Reshit.
C'est une chanson.
D'accord? C'est le début. Ensuite, Ikara, c'est quoi? C'est le principal. Donc quand je dis le principal, c'est le principal du chemin. Ça veut dire
course,
d'accord, la course. Et quand je dis Shorsha, ça veut dire la racine. La racine, ce qui est en dessous. Dans un immeuble, on a la racine qui n'est pas forcément visible. Ça veut dire que là, quand on va parler les fondations. Et là, quand on va parler de l'importance de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on va expliquer que la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça représente les trois en même temps. C'est avec ça qu'on peut démarrer le travail. Sans ça, on peut pas démarrer. C'est ça ce qui va former la majorité de l'immeuble. C'est pas simplement les fondations qui sont en dessous. C'est ça ce qui va former l'immeuble. Et c'est ça ce qui va être les fondations. Les trois en même temps. Pourquoi?
Véhou.
Quelle est cette chose qu'il faut se rappeler constamment et qui est tellement importante? Il explique. Bien que de manière générale, la crainte d'Akadosh Baruch Hu est le moteur pour tout ce qui est, pour toutes les mitzvot négatives, et l'amour de Dieu est le moteur de toutes les mitzvot positives. C'est pas forcément, pourquoi je dis de manière générale, parce que c'est pas forcément toujours, voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un serviteur. Un serviteur qui va ne pas faire certaines choses, et qui va, donc ça c'est le négatif, et qui va faire certaines choses pour son maître. Le positif et le négatif, il ne les fait pas par amour. Il le fait par crainte. Parce qu'il a peur de son maître. Ça veut dire, quand son maître lui dit, va m'acheter ça, c'est du positif. Il va aller l'acheter. Le positif et le négatif vont être par crainte.
Mais c'est parce que si tu y vas pas, tu vas t'en prendre.
Très bien. Donc c'est par crainte. D'accord?
Non, parce que c'est va m'acheter sinon.
Voilà. Sinon, donc ça veut dire que quand il va le faire, c'est par crainte. D'un autre côté, on peut aimer quelqu'un de manière tellement forte qu'on fera certaines choses pour lui faire plaisir et qu'on ne fera pas d'autres choses, donc négatif, pour ne pas lui faire de la peine. Mais c'est toujours parce qu'on l'aime. C'est pour ça que je dis bien que c'est de manière générale. De manière générale, le moteur de tout ce qui est positif est l'amour et le moteur de tout ce qui est négatif et la crainte. Comme le Rav Stenzel s'explique ici, il dit, on voit clairement que de manière générale, quand une personne quand une personne est en train de veut faire quelque chose, alors il a sa main qui, ses mains qui vont s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il a envie de donner. Alors que quand on est en train de se quand on est en train de ne pas faire quelque chose, de se retenir de faire quelque chose, on voit comment la personne physiquement va se renfermer. Et ça, c'est le concept de yira, de la crainte. Donc de manière générale, bien que de manière générale, l'amour de Dieu, c'est la base de tout ce qui est positif. Alors que la crainte de Dieu, c'est la base de tout ce qui est négatif. Donc, un juif, il va faire un calcul comme ça. Il va dire, moi, quand je fais une mitzvah positive, j'utilise l'amour de Dieu. Quand je fais une mitzvah négative, là, j'utilise la crainte de Dieu. Pareil, donc tu me dis, ne pas travailler Shabbat, là, j'éveille la crainte de Dieu. Très bien. Mais maintenant, tu me dis, mets les téfilines le matin, moi, je pense pas à la crainte de Dieu. Je mets les téfilines et j'ai l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on pourrait réfléchir. C'est ça que le Gemara Zaken, il commence. Il dit, bien que normalement, on sait que la crainte est le moteur tout ce qui est négatif, de toutes les mitzvot négatives, sur Mera, pour reprendre le verset de David Ameller, ça veut dire éloigne-toi du mal, et l'amour de Dieu est la source et le moteur pour tout ce qui va être positif. Afal piken. Quand même. Lodai l'horaire ava levada leva asetov. Même lorsque je m'apprête à accomplir une mitzvah positive. Et là va être la bombe. Même lorsque je m'apprête à accomplir une mitzvah positive. Que là, a priori, puisque j'accomplis une mitzvah positive, j'ai pas besoin de faire appel à la crainte de Dieu. Pourquoi tu veux que je fasse appel à la crainte de Dieu? Je suis pas en train de me retenir sur quelque chose. Je suis en train de faire quelque chose pour Dieu. Pourquoi tu me dis que c'est important de craindre à Kadosh Baruch?
Parce que des fois, la mitzvah positive, t'as pas envie de la faire.
Très bien. Bon.
Donc,
Alors, qu'est-ce que tu veux?
Ouais, c'est ça. Il l'a dit. Hein.
C'est du miel.
C'est le top de la dame.
Très bien. Alors pourquoi ça veut dire comme ça? De manière générale, quand une personne a envie d'accomplir quelque chose de positif, d'accord? Par exemple, quand on a envie de convaincre un mari qu'il doit faire quelque chose pour sa femme, de positif, on va pas lui dire si tu ne fais pas ça, si tu ne lui fais pas cette chose de positive, voilà ce qui va te tomber sur la tête. C'est pas ça ce qu'on va lui dire. On va lui expliquer pourquoi en faisant ça, il va développer des sentiments d'amour envers sa femme ou envers ses enfants. Et automatiquement, quand on va réussir à développer son sentiment d'amour, il va faire la chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on a envie de dire, on aurait envie de dire, que pour faire une mitzvah positive, j'ai pas besoin de faire appel à la crainte de Dieu. Il suffit de m'expliquer, et de me faire comprendre pourquoi je dois aimer Dieu, d'accord? Et je vais faire la mitzvah par amour, pour Akadosh Baruch.
C'est une question de timing.
D'accord? Ah, très bien. Ça, c'est ce qu'il a de Morazakan. Morazakan dit bien que normalement, on aurait envie de dire que l'amour est la base de tout ce qui est positif et la crainte est de la base de ce qui est négatif. Ouais. C'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire quoi, c'est pas comme ça? L'odai, l'horaire, aava, levada, leva, setov. Il n'est pas suffisant d'éveiller l'amour seulement, leva, setov, pour faire le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs problèmes. On a plusieurs problèmes quand une personne va servir à Kadosh Baruch Hu que par amour. Plusieurs problèmes quand une personne va servir à Kadosh Baruch Hu que par amour et pas par crainte. C'est quoi le premier problème qu'on a? C'est comme le Rav Stanza s'explique très longuement ici. C'est quoi les problèmes qu'on a? Pourquoi ça poserait problème quand une personne accomplirait une mitzvah que par amour?
D'accord?
Non. Plusieurs détails. On va arriver à ça aussi. D'accord? C'est quoi le problème? Premier problème, c'est que quand une personne accomplit une mitzvah que par amour, cet amour-là, quelque part, peut devenir comme un flirt, comme ils disent.
Un flirt.
D'accord. En français, ils disent un flirt ou un flirt?
D'abord, c'est ce que tu veux dire, parce que moi, je sais pas. Je connais ce mot-là, mais je sais pas si j'ai bien compris l'histoire.
Et on parle qu'il n'y a que de l'amour, en français. On est dans ça.
Si on a que de l'amour pour Akadosh Baruch.
Parle de fleurs, j'ai voulu.
D'accord.
Non, parce
si
que
on
c'est...
a... J'ai compris.
C'est un domaine... chasse gardienne, la fleur. C'est quoi, d'ailleurs?
On va se marier avec Dieu.
Fleur, c'est sûr, c'est ça, le fleur.
C'est sûr. On va se marier avec Dieu dans certaines religions.
Oui, c'est
on
ça.
On a plusieurs problèmes.
D'ailleurs fou amoureux de Dieu,
le Rav Stanzel s'explique longuement quel est le problème si une personne accomplit une mitzvah que par amour d'Akadosh Baruch Hu et pas par crainte. Mitzvah positive que par amour, il ne fait pas appel à la crainte. Premièrement, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, ça va devenir, la personne n'a pas le côté engagement. Je m'engage pas. Quand une personne n'a pas fait appel à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est simplement par amour, il fait par amour, Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un kiff qu'il est en train de faire. Puisque c'est un kiff, donc on n'a pas le côté engagement. Et alors, ça n'a pas le côté engagement. Alors là, on a ce que Lionel a dit. Puisque tu n'as pas le côté engagement, ça veut dire que dès que ça commence à me prendre la tête, je peux m'arrêter.
Ouais, mais il y a le pchat contraire aussi.
Attendez, il y a plusieurs détails. On n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire, attention.
Non, je dis qu'il y a le pchat contraire. On dit que Ve'avta'et Hashem Elokecha, on dit on parle d'amour, parce que quand on aime Dieu, ce qu'on fait par amour, on n'est jamais fatigué. Alors que par la ira, la limite, elle arrive. Et quelqu'un, même quand on le craint jusqu'à une certaine limite, après on dit, bah vas-y, tape-moi dessus, je fais pas ce que tu veux.
On va expliquer.
Il y a aussi une réouda,
ça, on va expliquer à la fin du chapitre 43, chapitre 44, pourquoi l'amour.
41, maintenant, tu commences à nous chauffer, et tout de suite je réponds.
Chapitre 41, là pour l'instant, on explique pourquoi la crainte est très importante, et qu'il faut démarrer par la crainte.
D'accord, on peut démarrer.
Alors pourquoi il faut démarrer par la crainte? Premièrement, comme ce que Lionel a dit, parce que quand on démarre avec l'amour,
ouais.
C'est quoi le problème qu'on a? C'est que dès que ça te prend la tête, puisque tout est basé sur de l'amour, donc c'est un flirt, d'accord? Et un flirt, ça peut venir quand ça peut partir. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, et ça c'est un point très intéressant. Quand on fait quelque chose par amour, on fait moins attention aux détails que quand on le fait par crainte.
L'amour en aveugle.
Je vais vous donner un exemple.
L'amour en aveugle, c'est ça?
Si par exemple, quelqu'un me dit, quelqu'un que j'aime bien, il me dit, va m'acheter ça au supermarché, va m'acheter tel gâteau chez le pâtissier. Je veux un gâteau comme ça. Moi, je vais aller par amour. Puisque je vais aller par amour, imaginez-vous que j'arrive au magasin et qu'il n'y a pas exactement le gâteau qu'elle m'a demandé. Un gâteau qui est un peu différent. Puisque je vais par amour, le détail va être moins important pour moi. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est faire plaisir à la personne. Attendez. De l'autre côté, tu joues trop ce soir. Quand il s'agit de crainte, ça veut dire quoi il s'agit de crainte? C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un il te dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire, tu vas me chercher ça et attention à toi, voilà ce que tu dois me ramener.
Je te ramène rien.
D'accord? Voilà ce que
tu dois me ramener. J'ai pas trouvé ce qu'il fallait, je te ramène rien.
Attention, tu dois me ramener ça.
Non mais j'ai pas trouvé, je ramène pas, parce que je te connais, toi tu es un kick. Si je t'ai pas ramené exactement le bon truc, tu m'en veux.
Qu'est-ce que
tu vas me dire c'est pas ça. Donc
oui.
J'ai pas.
Oui.
Alors que pour quelqu'un qu'on aime, on dit bon, tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà ce que j'ai trouvé de plus proche de ce que tu voulais.
Kadosh Baruch Hu, on peut ramener le gâteau, il est là. Donc, deuxième détail, deuxième problème qu'on a quand on fait une usage que par amour et qu'on démarre que par l'amour, c'est qu'on fait moins attention aux détails. Et ça, on le voit très souvent. On le voit très souvent chez les gens qui servent Dieu. D'accord? Surtout les gens qui démarrent, qui servent Dieu que par amour. Ouais. Ils ont du mal à comprendre des petits détails. Dis-moi, je fais la mitzvah par amour. Et même s'il y a un petit détail qui cloche, c'est pas grave.
Ah, c'est le bon Dieu quand même.
Moi, je le fais par amour. Alors qu'on voit que dans le monde religieux, dans le monde orthodoxe, on donne une grande importance à la crainte de Dieu. La crainte, la peur de ne pas faire exactement comme le détail qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé.
La crainte ou la rigueur?
La peur.
La crainte ou la rigueur?
On va parler. On va dire que dans la crainte, on va parler de la crainte qui est de la crainte de respect envers Akadosh Baruch Hu, mais on parle aussi de la peur, de l'arsem, comme ils disent. L'arsem. C'est-à-dire que je sais que je dois faire exactement comme ça parce que Dieu m'a demandé.
Mon religieux dit ça.
Attention. Voilà. Là, l'Admor HaZaken ne veut rien inventer, il veut simplement expliquer ce que le Zohar dit, ce que la Gemara dit, que Sourmera va à Setov, il faut toujours démarrer par la crainte, d'accord? Et après, l'amour peut venir. Même si c'est pour accomplir une œuvre positive. Donc on a plusieurs problèmes. Premier problème qu'on a dit, c'est quoi? C'est qu'on a dit que quand une personne fait une mitzvah que par amour, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dès qu'il aime plus, dès qu'il en a un peu marre, dès que ça lui casse les pieds, un sentiment d'amour peut partir beaucoup plus vite qu'un sentiment de crainte. C'est clair. C'est évident. Un sentiment de crainte, ça prend longtemps pour ne plus avoir peur de quelque chose. Alors que sentiment d'amour, c'est un flirt. Pourquoi je dis c'est un flirt? Ça vient aussi vite que ça part. Ça part aussi vite que ça vient.
Oui, si tu trouves un amour encore plus fort à côté.
Voilà. Alors qu'une crainte, ça prend du temps à partir. Ça, c'est un premier détail. Deuxième détail qu'on a dit, c'est quoi? C'est que quand on craint quelque chose, on fait beaucoup plus attention aux détails que quand on aime quelque chose. Mais ça, ces deux points-là sont rien par rapport au troisième point.
Avant d'arriver au troisième point.
Attendez, j'arrive au troisième point.
Non. Le type, il aime les belles bagnoles. Moi, c'est pas mon genre. Va au prochain. Le type, il aime les. Il va pas regarder les détails.
Si.
Quoi? Le moindre détail, il va te dire, je veux pas cette bagnole. Je veux pas, non, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon babel, le bon chidi. Je vais pas faire approximatif. Il aime, et je dis il aime plus que sa femme. Hein. Sa femme, on l'apprend. Il dit, bon, tant pis, je prends trop une note, la voiture, il sort le
bain. Il y a un détail que vous avez manqué ici. C'est que là, on parle que je suis en train de faire... Non, attendez, c'est très
c'est
important.
Je suis en train de faire
un plaisir à quelqu'un. Quelqu'un que j'aime bien, il me dit, j'ai envie de telle belle voiture. J'ai envie d'une belle voiture comme ça, rouge, avec les jantes comme ça, exactement comme ça. Et moi, je l'aime bien, j'ai envie de lui faire plaisir. Je vais aller chez le concessionnaire.
Ce que tu veux dire, c'est pas pour toi, c'est pour un autre.
Bien sûr. Je vais aller chez le concessionnaire. Ouais, d'accord.
C'est ça, le problème.
Je vais aller chez le concessionnaire. Et qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir qu'il n'y a pas exactement la voiture qui m'a demandé. Je vais faire mon possible, je vais dire, bon, ce qui compte, c'est que je lui montre que je l'aime. D'accord? Ce qui monte. Alors que quand j'ai la crainte, ça me dit, attention, tu m'achètes cette voiture, attention à toi si tu ne m'achètes pas comme ça. J'ai peur, chaque détail est important. Et là, on va arriver au troisième point qui est très juste que vous dites. C'est pour ça que c'était très important, j'ai le troisième point. C'est quoi? C'est que l'amour, c'est beaucoup plus égoïste que la crainte. J'explique ce que ça veut dire. Quand une personne aime quelque chose, quand je veux faire le plaisir à quelqu'un, je vais aller lui acheter une Ferrari, pour reprendre votre exemple.
Moi, j'ai pas choisi la voiture. Hein. Je tiens à te dire que moi, j'ai pas choisi la voiture. Lui, il a choisi. Tu as vu le level. Hein. Rouge, moi, j'allais dire une petite Renault 5, lui, la Ferrari.
Voiture
hein.
Rouge.
Moi, ouais, j'ai dit. D'accord. J'ai vu le level où il est, hein. Ferrari. Hein.
J'ai envie de faire un plaisir à quelqu'un et de lui acheter une Ferrari. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vais développer un sentiment d'amour. Mais c'est quoi ce sentiment d'amour? Ce sentiment d'amour, en vérité, c'est égoïste. Pourquoi? La preuve, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que s'il manquerait un petit détail, ça me dérangera beaucoup moins que si c'était pour moi. Si c'est pour moi, je veux ma voiture comme ça, ah, là je passe pas. Mais quand c'est pour un autre, puisque c'est égoïste, je le fais pas pour lui, je le fais parce que moi j'ai envie de l'aider, moi j'ai envie de l'aimer. C'est un kiff personnel, de la même manière que j'aime manger une glace, j'aime faire plaisir à quelqu'un. Donc quand il manque quelque chose dans le détail, je dis ma glace si elle manque un petit détail, c'est pas grave, ça me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que c'est un kiff personnel. Je prends ça comme un kiff personnel. Pour donner un exemple très simple, le Rav Sanzat, c'est un exemple très très simple. Il dit, on voit des gens, Dieu préserve, qui sont capables d'avoir des relations interdites. Des hommes, Dieu préserve, qui ont des relations interdites avec des femmes. Quand un homme marié qui a une relation avec une femme mariée. D'accord? Mais ces deux, donc Dieu préserve, c'est interdit.
D'accord.
Est-ce qu'ils s'aiment ces deux ou ils s'aiment pas? Ils s'aiment. Les deux, d'accord? La relation interdite.
Ah, c'est pas juste de l'amour.
Ah, écoute bien.
Peut-être, allez.
Non, on peut concevoir qu'ils s'aiment.
Oui, ça peut être.
Mais pourtant, je vais vous poser la question.
On va imaginer
Mais pourtant, chacun des deux, pour reprendre cet exemple, chacun des deux sait qu'il est en train de faire du mal à l'autre. Il fait du mal à l'autre.
Tu parles parce que c'est un issour.
Parce que c'est un issour, parce que ça va casser sa famille, parce que c'est du mal. C'est évident que c'est du mal. Seulement quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que de manière générale, c'est très très rare de voir un amour que j'aime une personne, mais pas un amour égoïste. J'aime la personne parce que vraiment j'aime la personne et je vais lui donner tout ce qu'elle a envie. C'est très très rare. La majorité, la grande grande majorité des cas, 99,9% des cas, l'amour n'est pas aveugle, mais l'amour est égoïste. Quand j'aime quelqu'un, de la même manière que j'aime une glace, j'ai envie de faire kiffer quelqu'un. Mais c'est moi qui aime, c'est mon kiff personnel. Et c'est pour ça, que s'il manque un détail, moi je vais décider que de la même manière que pour ma glace ou ma Ferrari, j'aurais décidé que ce détail ne me dérange pas, je dis, lui aussi, ce détail ne lui dérangera pas. Pourquoi? Qui t'a dit que ce détail le dérange? Pourquoi? Parce que l'amour, de manière générale, est égoïste. Alors que la crainte, c'est pas égoïste. Bon. Pourquoi la crainte, c'est pas égoïste?
Oui, d'accord. Rabin.
Pourquoi la crainte, c'est pas égoïste? La crainte, c'est pas égoïste, parce que dans la crainte, là, à ce moment-là, je n'existe plus. Moi, si tu m'avais demandé à moi, je te dis, moi, j'ai pas envie de l'écouter. J'ai eu ma moyenne de faire un message, j'ai pas envie de le faire. Donc, ça veut dire, on oublie carrément. Pourquoi je le fais? Parce qu'il me l'a demandé. J'ai pas le choix.
Ça répond.
Donc là, il n'y a plus d'égoïsme.
Ça, petite crainte, ça.
Enfin, attention. On n'a pas dit qu'il faut que de la crainte et pas de l'amour.
Mais...
On a simplement dit pourquoi la crainte avait un rôle très important.
Mais c'est aussi de l'égoïsme.
On a développé trois points. Dans l'importance. D'accord? Premier point qu'on a développé, c'est que quand ça démarre avec l'amour, ça peut partir aussi vite que c'est venu. Quelque chose qui vient par amour peut partir plus vite que quelque chose qui est venu par crainte. D'accord? C'est la première chose qu'on a dit. Deuxième chose qu'on a dit, c'est que quand on fait quelque chose par amour, on fait moins attention aux détails que quand on fait quelque chose par crainte. C'est la deuxième chose qu'on a dit. Troisième chose, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on fait quelque chose par amour, dans la majorité des cas, c'est un amour égoïste. Ça veut dire comme ça, que quand je fais une mitzvah par amour pour un Kadosh Baruch Hu, je ne le fais pas en vérité pour un Kadosh Baruch Hu. Je le fais parce que moi je suis un kiffeur. Et un de mes kiffs, c'est d'aimer Dieu. C'est pour ça que quand Dieu me dit maintenant, ma mitzvah, il faut la faire comme ça. Je dis non, mais moi mon kiff, on change un petit peu et ça sera aussi un bon kiff. Pourquoi? Parce que je suis égoïste. L'amour, c'est égoïste. C'est comme ça, par définition, la majorité des cas. Très rare, les histoires, on nous raconte des grands tzadikim que tellement ils avaient un amour tellement fort qu'ils oublient complètement la personnalité, ils sont capables de donner la vie pour un autre, c'est très très rare. Dans la majorité des cas.
Pas forcément comme ça, hein, Baal Teshuva.
Oui.
On commence d'abord par amour, soit il découvre Dieu, alors il est par amour.
C'est pour ça que, on va expliquer après, c'est pour ça que surtout au Baal Teshuva, hein, c'est très important de lui rappeler le concept de Ira, de la crainte de la Kadosh Baruch. C'est pour ça, rappelez-vous, c'est Edel Morazaken. Il dit Réchit à Avoda, les bases du travail, de commencer par la crainte. Et ça, Maïmonide, il le dit plusieurs fois. Maïmonide, d'accord, par exemple, dans la mitzvah dans laquelle il dit, on a une mitzvah de chercher à comprendre à Kadosh Baruch. Chercher à comprendre à Kadosh Baruch, pourquoi?
Il y a data,
mais pourquoi explique Maïmonide? Il dit que ça rentre dans le cadre de la mitzvah d'aimer à Kadosh Baruch. Comme ça, quand je vais découvrir comment Kadosh Baruch est tellement beau et tellement grand, je vais l'aimer. Maïmonide, avant de commencer, il dit attention. Avant même de commencer à réfléchir, de partir d'une base, que même si tu ne comprendras pas, ce que je te dis, c'est vrai.
C'est moins vendeur. Hein.
D'accord. Ce que je te dis, c'est vrai. Bien sûr. Bah oui. Tu comprends? Ça va te dire attention. Il faut que tu partes d'une base.
Mais ils n'ont pas beaucoup engrangé. Ils ont fait du chiffre, mais ils ont fait beaucoup de dépenses.
Ce que je te dis, c'est vrai. T'as tout cassé, là. Ça veut dire, en d'autres termes, tu dis, bon, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, ça sera le même prix. Là, la personne, au début, il est chaud, il dit, ouais, je veux comprendre et tout. Là, t'as tout cassé. Ça, on peut expliquer aussi quelque chose de très intéressant. On dit que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, avant de donner la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a renversé sur nous?
Kafalem
Ar Kegigit. Akadosh Baruch Hu a renversé sur nous une montagne, Kegigit. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Umalchut Overatan Kivilo Alem. Ça vous dit quelque chose là?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on dit? Umalchut Overatan Kivilo Alem. On dit que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on l'a acceptée Beratson de plein gré.
Ben, c'est uniquement la situation.
D'accord. Alors c'est quoi cette histoire? On l'a accepté de plein gré, ou bien il a dû nous renverser la montagne dessus pour qu'on dise bon bah écoute on n'a pas le choix.
Ah, c'est le coup de la baïra.
Comme a dit la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat dit comme ça, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, l'on a dit, vous acceptez tout de suite, sinon, potek vous ratrem.
Sham
tek vous ratrem. Là-bas, vous serez enterré. D'accord?
C'était très.
C'est du forcing, d'accord? Imagine-toi, ça veut dire les Juifs, ils sortaient d'Égypte, ils étaient tout chauds, ils sont préparés pendant 49 jours, on leur a dit, vous allez recevoir la Torah, et pack, tout d'un coup, il y a un gars qui vient avec un flingue, il dit, écoutez-moi bien.
Un flingue, avec une bombe au Napal, oui. Au Napal, oui, ça fait.
D'accord? Ils s'attendaient au grand amour avec Akadosh Baruch Hu. Ils étaient en train d'avancer, ils avançaient, et là, à la fin, dès qu'ils arrivent au summum, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un gars avec un flingue qui leur dit, écoutez-moi bien, vous allez accepter ce que je vous dis ou bien sinon vous mourrez ici. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? C'est quoi cette histoire? Narase Venishma. C'est le même concept. Explique le Zohar, hein, le concept de Trilou ou Chimo. Kadosh Baruch Hu voulait que le lien qu'on a avec lui démarre par la crainte. Pourquoi? Pourquoi il voulait que ça démarre par la crainte? Pour parer aux trois problèmes qu'on a dit. Comme ça, même s'il y aura un jour un problème et que l'amour y partira, parce que comme il a dit Yaakov, l'amour, on peut trouver un autre amour plus fort. Il suffit qu'il y ait un autre amour plus fort qui vient, et tout de suite, l'amour d'avant, il s'en va. Il n'y a plus rien. Je peux aimer Akadosh Baruch Hu, j'ai un autre amour qui vient, un autre amour qui est plus fort qui vient, comme si il n'y a plus rien. La crainte, ça prend plus de temps à partir. Ça, la montagne qui est dessus, on s'en rappellera. Notre Neshama, elle s'en rappelle peut-être, enfin, je ne sais pas si on s'en rappelle. C'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous montrer. D'accord? Ça, c'est pour ça que c'est très important de, surtout de, dans notre génération que, on a toujours envie de dire qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent et qu'il faut pas forcer les gens, etc. Notre chapitre est très important de savoir que dans le judaïsme, avant l'amour vient la crainte. Avant l'amour vient la crainte. Avant de vouloir aimer à Kadosh Baruch Hu, il faut d'abord démarrer par la crainte. Bon, on va développer. Parce que d'un autre côté, vous allez me dire, c'est pas attirant quand je vais rapprocher quelqu'un de Torah et Mitzvot. Si je vais lui dire, ah, il faut, ça va t'apporter à transcender Shabbat, c'est pas bien, il va me dire, écoute-moi bien.
Non,
tu... Écoute-moi bien, trace ta route, laisse-moi tranquille. D'accord.
C'est ce qui se passe, non?
Attends, non?
Ah si, la plupart des juifs, ils sont en dehors de la Torah à cause de ça.
Bon, on va en parler.
Pourquoi ils sont quoi?
D'accord. Ils sont en dehors.
Donc là, on vérifie.
C'est à cause de ça, hein?
Mais si, parce qu'ils ont trop de contraintes.
Donc là...
Parce qu'ils veulent valider, ils veulent se faire leur vie, quoi.
C'est ça.
Parce que...
Si tu leur dis c'est que des contraintes, les gens...
Ah, ce sont même s'il n'y en avait pas...
Bon, donc ça, on va développer. On verra par la suite que, quand on veut rapprocher quelqu'un de la Torah. D'accord, là peut-être, t'as pas besoin de lui montrer tout de suite le côté crainte.
Détails.
D'accord, t'as pas besoin de lui montrer le côté crainte, oui, parce que c'est...
Qui est bon, le
on va en parler, ça on va en parler.
Ils font pas la crainte au départ, ils font...
Ok, tu vas dire.
Le mec il arrive une fois par mois, il vient au Minyan.
On parle pas de Lubavitch maintenant.
Ah bah extraordinaire, que t'as pas fait là.
C'est ça.
Ouais, comme ça ils font du
Tmenik. Et le gars il vient pas au Minyan le matin, on lui dit rien.
Voilà.
N'est-ce pas,
d'accord. Mais non, mais quand il vient une fois par mois, on lui fait Kavod, s'il vient tous les matins, il...
On parle pas du Ravashmil.
Ravashmil, il a dit, on doit pas porter son talit. Ça, c'est des vrais. Voilà. N'ont pas peur. Ils font des reproches à la communauté. C'est pas, vous êtes tout gentil et tout.
T'entends, oui.
Non, c'est pas simple, hein.
C'est cool, ouais. Dire.
Franchement, c'est pas simple, il faut le faire, hein. Il a parlé, mais ça le démangeait. Voilà, ça suffit maintenant d'amener votre kippa sur la poche et tout, la cavode. Ouais. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Hein? Dit comme ça.
Allez, Lubavitch, voilà. Ça c'est dit Lubavitch émancipé.
Émancipé.
Connaisseur,
il sait ce que c'est.
Donc ça, on va en parler. On va en parler quand je vais rapprocher quelqu'un à la Torah. Est-ce que j'ai le droit de cacher certaines facettes pour l'attirer? Quand, par exemple, est-ce que quand je dois lui dire qu'il doit faire Shabbat, je dois lui expliquer la beauté du Shabbat? Je dis voilà, la beauté du Shabbat, le Shabbat c'est beau, mais en vérité, entre moi et lui, je lui explique pas qu'il n'y a pas de raison pourquoi pour monter au 30e étage, je dois pas prendre l'ascenseur. Il n'y a pas de raison logique, tu trouveras jamais de raison logique. D'accord? Tu ne sors pas des raisons, il faut te reposer. Il n'y a pas de raison. Seulement bon, pour l'attirer.
C'est pas reposant.
D'accord? C'est pas reposant.
Monter à pied dans l'étage. C'est plus reposant.
Bon, mais je vais lui montrer les belles facettes. Alors, comment je dois faire quand j'attire quelqu'un à temps? Attends, on verra. Là, on parle pas de ça. Là, on parle de quelqu'un qui est déjà dedans. Maintenant, je m'apprête à accomplir une mitzvah. Est-ce que je dois le faire par amour ou par crainte? Mitzvah positif. Qu'est-ce qu'on te dit? Le début du travail, tout doit démarrer par la crainte. Par la crainte. Après, une fois que tu as démarré par la crainte, là tu peux avancer. Bon. Donc, on a expliqué plusieurs problèmes, et bien entendu, on fait que commencer le chapitre 41. On a beaucoup de détails.
Et on s'est tu.
On a beaucoup de détails à développer.
D'accord?
Et pourtant.
Non, je me tais, sinon j'ai de quoi dire. Hein.
Donc,
j'attends.
C'est un chapitre très chaud.
Parce que la crainte, souvent, elle est égoïste. Hein. Ça t'a intérêt.
Ah, et même les choses d'amour et tout, c'est compliqué.
C'est l'amour.
Mais bon, attention, je suis sûr que le amour, il sait de quoi il parle. On va attendre. Soyons modestes.
On a certains amours, bien entendu, qui sont pas égoïstes. Mais on a dit que la majorité des amours sont égoïstes. Bon, il y a plusieurs problèmes qu'on a que dans l'amour. Surtout, le problème est surtout quand on démarre avec l'amour. Tu comprends? Quand on démarre avec l'amour.
Les mariages en général ils démarrent avec l'amour.
Non, le mariage démarre pas avec l'amour.
Ah bon, pardon.
Le mariage démarre avec l'engagement. Un homme n'a pas des relations avec sa femme avant d'avoir un engagement.
D'accord, mais on peut aimer Vayahav, Yitzhak, comment il s'appelle, Yaakov, Vayahav et Rachel, machin, mais avant même qu'il la touche.
Mais qu'est-ce qu'on voit? Une des raisons qu'on explique.
Ça va, il a pas touché.
Une des raisons qu'on dit dans la Torah. Pourquoi dans la Torah on te dit pas de relation avec la femme avant d'être marié avec elle? Pourquoi? Si une personne va dire qu'est-ce que ça change, pourquoi tu me laisses pas avoir des relations avec elle avant? Donc tu lui dis d'abord tu commences avec la crainte. C'est quoi la crainte? C'est l'engagement. Engagement. C'est carré maintenant. Je t'engage. Mais attends, j'ai pas essayé, j'ai
non,
pas
non,
vu.
Non.
Engagement maintenant.
Non.
D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que attention. Ce que je veux dire par là, c'est que ça doit démarrer par la crainte.
D'amour, la notion de
havre. D'amour, pas de plaisir. Je veux
non,
dire.
Voilà, exactement.
T'as rien à voir.
Je vais pas parler exactement. Ouais. Je suis d'accord, Razak. Je parle de hava. Je parle pas maintenant de hana'a, de profit. Je suis d'accord avec toi. Ça t'aura dit le profit, entre guillemets, ou le plaisir, ou le machin, après.
Non.
Il faut d'abord t'engager, mais avant. C'est marqué. Il a pas touché 7 ans. Je dis, moi, pour 7 ans, c'est passé comme 3 jours.
Très bien.
Tellement il aimait.
Donc,
ah bon
donc,
aujourd'hui, quand ils aiment quelqu'un et qu'ils peuvent pas la toucher pendant 7 ans, ils se pendent au écourt.
On va devoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va expliquer que l'Ahava est très importante, mais dans tous les cas...
Il a commencé par Ahava. Dis-moi où il a manqué Ira.
Ah non.
Montre-moi la Ira.
Attends, on va voir, on va parler.
Yaakov, faudra me la trouver. Hein.
Yaakov, je sais pas si c'est une Ahava.
Je veux des références.
Bon, après, je sais pas. Je sais même pas si une référence par rapport à la méthode de Ahava Tachem, parce que nous on a le Zohar qui dit clairement que on a démarré par Trilou et Chumou. C'est-à-dire d'abord la crainte après l'amour. C'est-à-dire que c'est clair que en ce qui nous concerne, mitzvah de Ahava Tachem et Yirat Hashem, d'abord on doit craindre
la Kadosh Baruch Hu. D'accord, par rapport à Dieu peut-être.
Ça c'est clair. Maintenant la question se posera peut-être pour Yaakov et Rachel. Est-ce que Yaakov a démarré effectivement par une crainte ou pas? Bon,
ce que je veux dire, c'est qu'il est fort probable que ce qu'on est en train de développer ici, c'est parce que ça se rapporte à Kadosh
Baruch Hu. Ah bien sûr.
Et uniquement.
Oui.
Mais la notion de Hava qui doit commencer par la Ira ou la Ira qui commence par la... Je sais pas si c'est une réalité par rapport aux relations humaines.
Mais je vais vous poser une question très simple. Yaakov, il aimait Rachel, oui. Yaakov, il aimait Rachel. Je vous pose une question. Imaginez-vous que pendant ces 7 années, quand il n'était pas encore marié avec Rachel, il aurait trouvé une autre femme qu'il aurait plus aimée. Il n'a pas d'engagement avec elle. Donc il aurait pu prendre une autre femme.
Ouais.
Très bien. C'est pour ça qu'on te dit ici, quand tu dois accomplir une mitzvah et que là, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de changer.
Il n'a pas pris ou le donné.
D'accord. Mais là, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de changer. Là, dans ce cas-là, quand tu prends un Kadosh Baruch Hu, tu peux aimer qu'un Kadosh Baruch Hu, tu peux rien d'autre aimer. Donc là, je suis obligé de commencer par la crainte. Comme ça, on te dit, tu commences par la crainte, comme ça, même quand tu vas aimer, tu auras des hauts et des bas, mais toujours il y a la crainte qui sera là pour te retenir.
Comme une sorte de garantie ou de garde-fou.
Oui, oui. Bon, on va expliquer. On te dit comme ça.
Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou les farot. Sarich les horaires trila à ira. je recommence peut-être depuis le... Non, où on était. Afal Piken.
Afal
Piken.
L'Odaï.
Quand même. Bien que de manière générale, l'amour est le moteur des mitzvot positives, et la crainte est le moteur, en général, des mitzvot négatives, Afal Piken quand même. L'Odaï, l'horaire, Aval, Levada, Leva, Setov, il n'est pas suffisant d'éveiller uniquement l'amour. Les va assez tov pour accomplir une mitzvah positive, ou les fachotes, tout au moins, sarich, les orestrila, à ira tivi. Une personne doit éveiller, au minimum, la crainte naturelle. Parce qu'on avait expliqué dans le chapitre 18 qu'il y a plusieurs types de craintes. On a la crainte révérentielle.
Voilà.
D'accord. On a la crainte révérentielle, ça c'est la crainte classe. D'accord. C'est pas simplement ça. Que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la peur de la punition. On a la crainte naturelle, la crainte innée. Voilà. Un juif, quand il naît, par nature, il a peur d'Akadosh Baruch Hu. Il a une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, bien entendu, cette crainte peut être cachée. Parce qu'avec des amis qui vont lui dire, t'inquiète pas, t'as rien à craindre, très bien, elle peut être encrassée, peut-être. Mais, ira ativit, un juif, quand il naît, par nature, on a hérité d'Avraham Avinu un amour et une crainte. C'est comme ça.
Ah, d'Avraham Avinu, ça?
Oui, d'Avraham Avinu aussi. Oui. Le horatrila a ira ativit. Donc, un juif doit réveiller au minimum a ira ativit. La crainte naturelle, âme souterraine qui est cachée, velève kol Israël dans le cœur de chaque juif. Donc ça vient, on te dit comme ça. Là, on n'est pas en train de parler de la crainte des tzadikim qui sentent la crainte révérentielle devant Kadosh Baruch Hu. Là, c'est accessible à tout le monde. On explique pourquoi chaque personne qui fait une mitzvah, d'accord, même un bar mitzvah qui a 13 ans, d'accord, il doit commencer par la crainte. Comment on voit ça? Alors, de quelle crainte on parle? On te dit, d'abord, on va commencer par la crainte la plus simple, qui est la crainte naturelle. D'accord, la crainte, c'est quoi la crainte naturelle? Chez l'Olimrod de Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Kanal Kanis Karnel. Qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le chapitre, donc chapitre 18, fin de chapitre 18, début de chapitre 19?
Kanal, c'est 18.
D'accord? Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que... On avait expliqué qu'un juif, par nature, n'a pas envie de se révolter contre Akadosh Baruch. La preuve.
On est docile,
la preuve, c'est quoi? C'est que quand tu vas dire à un juif, viens, on va faire Avodah Zarah, il ne veut pas faire Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que moi, je dis, non, je peux pas. Ah, on a posé la question, on a dit, mais pourquoi quand on dit fais Avodah Zarah, tu dis non, et quand je te dis fais une Avera, fais une autre Avera, tu vas dire, bon, ça va, je fais. C'est la même chose. Ça, c'est le rôle du Yetzarara. Le Yetzarara qui s'est arrangé pour brouiller les pistes, pour te dire, ça tu peux, ça tu peux pas. Mais en vérité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un juif, quand il naît, à la base, un juif, par nature, ne veut pas se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la crainte de base, la crainte innée. D'accord? On est avec ça. C'est naturel. Comme on a dit, animal, comme on a dit, la crainte instinctive. C'est instinctif. On est avec ça. Donc, au minimum, il faut réveiller, toucher cette crainte. Et on va expliquer comment on éveille cette crainte.
L'éducation, hein?
Canal. Oui, t'as raison, l'éducation a un gros rôle dans ça.
Quoi que ça, hein?
Chetehe, Beit Galut, Libo, Mochal, Kolpani. Mais là, on va parler des gens qui n'ont pas eu d'éducation. Ils ont envie de se faire une éducation.
Ah, c'est bien, ça, hein?
Parce que le Yetzara, il a fait de l'éducation, lui aussi.
Oui. La bouche est dure.
Alors, c'est quoi cette crainte? Chez l'Olimrod de Melech Malcha Malachim Akadosh Baruch Hu. La crainte de base de ne pas vouloir se révolter contre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comme ça, j'ai envie de mettre les tefilines, d'accord, ou j'ai envie de faire une mitzvah. On te dit, il faut que tu, de temps en temps, comme on expliquera quand, d'accord, des fois ça fait une fois par jour, une fois par mois, on va expliquer quand après, te rappeler du fait que quoi qu'il en soit, que tu aimes ta mitzvah ou que tu n'aimes pas ta mitzvah, tu dois le faire. Pourquoi tu dois le faire? Parce que dois éveiller quelque chose inné en toi, qui est que tu n'as pas envie de te révolter contre ta cadence.
C'est un esclave.
Un esclave, exactement. On va parler tout de suite de l'esclave.
Voilà, on est des esclaves, les mecs.
Chetehe, Beit Galut, Libo, Omochot, Kolpani.
Il
faut éveiller cette crainte, que cette crainte soit dans son cœur, c'est-à-dire que ce soit une crainte ressentie, ou même si une personne n'arrive pas à ressentir ça, au moins... Donc cette crainte, on passe d'une crainte basique, une crainte que n'importe quel juif a, qu'il n'a pas envie de se révolter contre Dieu. Demandez à un juif, est-ce que tu veux te révolter contre Dieu? Non, j'ai pas envie, j'ai peur. Donc au moins, il va essayer de la sentir, et même s'il n'arrive pas à la sentir, bémocho. Bémocho, c'est-à-dire y réfléchir. C'est-à-dire juste je réfléchis au fait que je suis juif, et qu'un juif n'a pas envie de se révolter contre Dieu. Juste je réfléchis. Pourquoi ça va marcher? Normalement, quand on réfléchit, on peut réfléchir 10 000 ans à quelque chose, si tu le sens pas. Là, ça va marcher. D'accord? Et même si je crois que ça n'a pas marché, mais ça va marcher parce que je l'ai déjà en moi. C'est quelque chose qui est déjà en moi. C'est quelque chose qui est déjà inné. Donc, si c'est quelque chose qui est déjà inné, il suffit d'y réfléchir. Réfléchir, bémocho. Même si je ne sens pas. Moi, je sens pas que j'ai pas peur de Dieu. Ah, j'ai pas peur de Dieu. Je dis juste, tu réfléchis. De temps en temps, tu prends quelques secondes, tu réfléchis que quoi qu'il en soit, que tu aimes ce que tu fais, ou que tu aimes ce que tu fais, ou que tu aimes pas ce que tu fais, quoi qu'il en soit, on a peur de Dieu. Même si je le sens pas, au moins je le réfléchis. Daïnou, ça veut dire. Il explique. Leit bonen de marshavto al kolpanim. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que dans la pensée, il y a marshava, d'accord? On avait expliqué que marshava, c'est la pensée la plus primaire, d'accord? Parce qu'après, on dit que quand une personne va bien réfléchir, ça va devenir da'at. C'est quoi da'at? Da'at, ça vient du mot de vayeda adam et rava, que ve'adam yada et rava, que Adam a connu rava, c'est-à-dire que c'est attaché. Ça veut dire que quand on a tellement réfléchi à quelque chose, que ça devient une partie de nous. On se dit, on n'arrive même pas à ça. Mais marshava, juste tu réfléchis.
Intériorisé.
D'accord?
L'afnim.
Ouais. Juste tu réfléchis. Attention, ça. Bien sûr, si tu peux, là, l'Admorazakine, il donne le minimum du minimum du minimum. Ça veut dire, c'est même pas la crainte révérentielle, c'est la crainte naturelle.
Je m'éviens,
d'accord. C'est même pas la crainte révérentielle, c'est la crainte naturelle. C'est même pas dans le cœur, c'est dans l'esprit, dans la tête. Et dans la tête même, c'est simplement une réflexion. Je réfléchis à quelque chose. Ça veut dire, je peux réfléchir et penser le contraire. Vous savez, les politiciens, ils sont capables de penser quelque chose, mais ils sentent le contraire. Pas de problème. Juste tu fais, juste tu réfléchis. Même si tu t'es pas... l'afnim, t'as pas intériorisé. Très bien. Daïnou, ça veut dire. Leit bonen de marshav tol kolpanim. Réfléchir au moins dans sa pensée. Comme ce qu'on vient d'expliquer. Gdulat ensov baruchum. À quoi je vais réfléchir? À quoi tu veux que je réfléchisse? Comment tu veux que j'ai peur? J'ai pas peur de Dieu. Gdulat ensov baruchum alchuto. Là, on va devoir expliquer. Là, on va avoir de longues lignes pour expliquer. Gdulat ensov baruchum alchuto. La grandeur de Dieu.
Quand?
Ou malchuto et sa royauté. La grandeur de Dieu et sa royauté. Grandeur de Dieu, royauté. Mais Dieu, il n'est pas grand. Dieu, il n'est pas grand. Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Je vais expliquer. Hacher, donc, ça va être en plusieurs étapes. D'abord, on va expliquer comment Dieu est très grand. Et après, on va situer l'homme par rapport à tout ça. Je ne sais pas si on aura le temps de faire ça aujourd'hui, mais au moins, on va commencer. Daïnou, donc, où j'en étais? Oui. Gdoula tensava orhu malchuto. La personne va réfléchir à la grandeur de Dieu et à la royauté. C'est quoi la royauté de Dieu? Acharhi, Malchut Kololamim, Elyonim Vetartonim. Akadosh Baruchou, je vais essayer de réfléchir comment Akadosh Baruchou est très grand. Chaque personne va utiliser son imagination. Et l'Admora Zaken fait exprès de rester vague. Ici, pourquoi? Pourquoi il fait exprès de rester vague? Parce qu'on veut montrer que ça s'applique à tout le monde. D'accord? Ça s'applique à tout le monde. On a des gens qui sont capables d'aller très très loin dans la réflexion. Et on a des gens qui sont très limités. C'est pour ça qu'on donne pas de détails. Chacun va réfléchir comme il sent. Chacun va essayer de s'imaginer comment Dieu est très grand. Donc on a un enfant qui va s'imaginer comment Dieu est très très grand, et un adulte comment il va s'imaginer que Dieu est très grand. Les deux, ils vont s'imaginer par rapport à leur cerveau. Comment Dieu est très grand, comment Dieu est le roi de ce qui est en haut, ce qui est en bas. Dieu est partout. Ve'iu memale kolalmin, ve'sovev kolalmin. Comme les enfants, par exemple, quand les enfants, quand ils veulent s'imaginer qu'est-ce que c'est Dieu, ils te disent Dieu il est partout, il est même dans le ciel. Alors maintenant on sait que quand on grandit, on comprend que Dieu il n'est pas dans le ciel, Dieu il est partout. Mais c'est comme ça, veut dire chacun, juste tu réfléchis. Tu réfléchis selon tes notions, pour t'imaginer comment Dieu est très grand. Ça, c'est une notion du Zohar, que le Zohar amène très souvent, le concept que comment Dieu remplit les mondes et entoure les mondes. Ça, c'est une notion qu'on verra beaucoup plus tard dans le Tanya, enfin beaucoup plus tard, on approche de la fin. On verra ça vers le chapitre 45-46, d'accord? Vous inquiétez pas, il n'y aura pas une notion qu'on passera à côté. Toutes les notions, on va venir par les faire. On expliquera c'est quoi la différence
entre... Rien n'est cadeau, tout est fourni.
Tout est fourni. Enfin, comme il avait dit le... Rabbi Levi Tzrek de Verditchev, quand on lui a amené le livre du Tanya,
ouais.
Il a dit, je comprends pas comment une personne peut rentrer un dieu tellement grand dans un livre tellement petit. Et c'est vrai, on voit comment on parle beaucoup de sujets, et avec ça, il y a beaucoup de détails qu'on n'est pas tellement rentré, parce qu'il y a beaucoup de fois on a l'impression que la Admora Zaken se répète, mais bon, on n'a pas le niveau de comprendre, mais c'est très très fort. Donc il dit comme ça. La personne va essayer de s'imaginer comment un Kadosh Baruch Hu est le roi de ce qui est en haut, ce qui est en bas. Ve'iyu me male kolalmin, ve'sovev kolalmin. Akadosh Baruch Hu emplit les mondes et entoure les mondes. Juste pour vous dire, en gros, c'est quoi la différence entre emplir les mondes et entourer les mondes. Quand on dit emplir, on dit il y a deux types de rois. D'accord? Il y a le roi qui va régner sur son pays de manière éloignée. Ça veut dire que lui, il va être dans son palais et les gens vont jamais le connaître. Lui, il va jamais connaître les gens, mais il va gérer son palais à distance. Ça, c'est sovev. C'est-à-dire qu'il gère de loin.
Il entoure.
Mais male, c'est le roi qui va être très présent. C'est le Sarkozy. D'accord? Celui qui va être là, qui va être partout. Toujours, tu le vois à tout bout de champ. Il y a même Malé, il y a Sovev. Il est Avdi,
hein. C'est un bon exemple.
D'accord? Il est là à tout bout de champ, lui, partout, tu le vois.
Ce serait plutôt le Corée, les dictateurs ou le...
Bon.
Dictateur que partout, il y aura une image partout.
Dictateur?
Ouais, dictateur. Sarko. Ouais.
Non, je ne parle pas de dictateur. Non, je parle de deux types de royaumes. Et là, on explique à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on expliquera plus loin, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il est les deux. En même temps, Kadosh Baruch Hu, il gère de loin. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il rentre dans les détails. Bon, Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'expliquer. Donc ça, la personne essaye de l'imaginer. Encore une fois, on rentre pas dans les détails parce que chacun s'imagine comme il peut. Chacun va s'imaginer comment Dieu il est capable de gérer ma vie à moi et comment Dieu il gère tout de loin. Utilise ton imagination. Au Kumash Shekatuv, comme c'est écrit, dans Irmiya, Allo et Hashemaim vet haaretz animale. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset, il dit, Kadosh Baruch Hu, il dit, Allo et Hashemaim vet haaretz animale, j'emplis le ciel comme la terre. Qu'est-ce qu'il explique les commentaires là-bas? Ça veut dire que Dieu emplit le ciel de la même manière qu'il emplit la terre. Ça veut dire quoi? Le ciel, ça représente ce qui est en dehors de la terre. Et là, donc, ça veut dire qu'en vérité, explique les commentaires là-bas, on parle de deux types de royaumes d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle du ciel et de la terre, le ciel, c'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu, il gère de loin. Et la terre, c'est comment Akadosh Baruch Hu rentre dans la terre. Très bien. Ça, c'est la première partie de ce que la personne réfléchit. Donc, premièrement, quand je réfléchis comment Akadosh Baruch Hu est très grand. Big.
Tu peux pas réfléchir à ça.
Très bien. Tu utilises ton imagination. Pourquoi tu peux pas?
C'est bloqué.
Bon. Je peux avoir un développement, enfin...
Attends, on n'est pas fini. Tu peux pas t'imaginer...
Très bien, juste, tu réfléchis que t'es bloqué.
D'accord. Non, moi je suis bloqué, alors qu'est-ce qu'on fait
maintenant? Attends, c'est bon. Donc tu réfléchis, on va développer. Pour l'instant, tu dis, tu réfléchis à ton niveau. Comment Akadosh Baruch Hu est grand? Tu réfléchis pendant, je sais pas, 10, 15, 20 secondes. Comment Dieu est très très grand? Dieu est très très grand, comment Dieu a créé la nature, comment Dieu est capable, Ashgara Prati, on a des éléments dans Tanya. Par exemple, quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il gère les Gilgoulis, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il gère que quand je veux boire le café, toute la chaîne de production, enfin, tu peux réfléchir sans fin, d'accord? Tu cherches des éléments pour réfléchir comment, selon ce qu'on te dit, Dieu est très grand, big. Très bien, maintenant on va se situer par rapport à tout ça. Maintenant, moi, je veux me situer dans le puzzle. Donc là, on va passer du big au small.
Oh, pas au small. Au tiny.
Au tiny. Qu'est-ce que je réfléchis? Je réfléchis que ce grand Akadosh Baruch Hu, que je vois comme un enfant ou comme un adulte, mais je comprends qu'il est grand. Qu'est-ce qui fait ce grand Akadosh Baruch Hu? Uma niyar elyonim va'atartonim. Akadosh Baruch Hu laisse ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. C'est-à-dire, il laisse tout le monde. Le Gan Eden, il laisse tout le monde. Uma yar et malchuto, il va spécifier sa royauté, il va focaliser sa royauté. Sur qui? Sur qui? Al Amo Israël Bichlal, sur son peuple Israël en général. C'est-à-dire que de tout ce qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qu'on nous dit dans les textes? Akadosh Baruch Hu, pour qui il a créé tout ça? Pour Am Israël. Pour le peuple d'Israël. Bon, voilà. Am Israël, c'est encore une notion vaste, d'accord? On va dire oui, mais Am Israël, il y a 17 millions de personnes. Donc moi, je suis 1 sur 17 millions. Non. Ve'alav Bifras. Je vais réfléchir comment ce grand Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, ce grand Akadosh Baruch Hu, a décidé, de tout le monde entier, de tout ce qui existe, de toutes les galaxies, de tout ce qui existe, il a décidé de se focaliser sur le Am Israël en général, Ve'alav Bifrat, et sur moi, non, il dit ici sur lui, d'accord? Moi, je veux dire sur moi, Bifrat en particulier. Alors, d'où on sait que, pourquoi, ça veut dire quoi sur moi en particulier? Il explique. Dit la Mishnah Sanhedrin, on l'a étudié il y a quelques mois. Kichayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Aolam. Qu'est-ce que dit la Mishnah Sanhedrin? Elle dit qu'un homme a l'obligation de s'imaginer qu'il est comme Adam Harishon. Quand Adam Harishon est venu dans le monde, explique la Gemara. Adam Harishon, il était seul. Il n'y a pas de Am Israël, il n'y a personne. T'es seul. Tu vas faire le boulot, il sera fait. Tu vas pas le faire, il sera pas fait. Qu'est-ce que dit la Mishnah dans la Gemara? Qu'est-ce que dit la Mishnah Sanhedrin? C'est pas la Gemara, c'est la Mishnah, la Gemara explique. Elle dit que Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Aolam. Un homme a l'obligation de dire, le monde a été créé pour moi. Mais attention, c'est pas égoïsme. Parce qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui sont persuadés que le monde a été créé pour eux. On n'a pas besoin de leur expliquer.
C'est pas égoïsme, c'est pouvoir maximal.
Très bien. Alors, c'est quoi le concept ici de Bishvili Nivra Olam? C'est pour la responsabilité.
Le pouvoir.
Le pouvoir. On n'est pas en train de te dire que tu dois te rappeler. L'Omar, une personne doit dire, Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. On n'est pas en train de te dire que tu dois être égoïste et dire tout a été pour moi, l'égoïsme, tout le monde est pour moi. Non, c'est pas ça ce qu'on est en train de te dire.
Tu arrives, ça.
D'accord? C'est pas ça ce qu'on est en train de te dire. Tu vois un gars avec une soirée, tu dis monsieur dehors, elle a été créée pour moi.
Mine.
Et je suis déjà gentil, je te demande pas d'être mon chauffeur. D'accord? T'as été créé pour moi. Non, c'est pas ça. Bishvili Nivra Olam, ça monte sur le pouvoir, ça monte sur la responsabilité qu'on a. Pourquoi il amène ici cette l'Admorazaken, il amène cette Mishnah, cette Gemara? C'est pour nous montrer qu'une personne, même un juif, même s'il va dire, ok, Akadosh Baruch Hu sur le monde entier, tu m'as dit qu'il a focalisé sa royauté sur le Am Israël. Bon, mais le Am Israël, il y a 17 millions de personnes. Si moi, je suis 1 sur 17 millions. Qu'est-ce qui va se passer si je ne veux pas accomplir une mitzvah? Rien, il m'a assez... Battel Bechichim, je suis annulé, je ne vois rien.
Quantité négligeable.
Qu'est-ce qu'on te dit? Non. Ve'ala bifra, tu réfléchis comme un Kadosh Baruch Hu, il a focalisé sur le Am Israël.
Et il a zoomé sur toi.
Et sur l'Am Israël, il a zoomé sur moi. D'où tu sais qu'il faut réfléchir comme ça, hein? C'est grande rasra quand tu réfléchis comme ça. Tu réfléchis que ce grand, grand Dieu, d'accord? Il est en train de zoomer son image satellite sur moi. Et là, il me regarde, tout le monde en haut est en train de me regarder. Ils attendent de voir ce que je vais faire. Je vais faire la Misa ou je vais faire la Vera?
Que ça, ils attendent, t'as dit.
Les anges, tout le monde me regarde.
Oh là,
tout le monde me regarde. Tout ça, ça a été créé pour moi.
Tous ceux qui ont rien à faire.
Je suis au centre. D'accord. Vekichaya, Madame Lomar, Bishvili, Nivra, Aolam. Un homme, comme j'ai dit, a l'obligation de dire le monde a été créé pour moi. Tout ce qui a été créé pour moi. Comment il disait un des tzadikim? Il dit que quand un juif fait cette fille-là, il doit s'imaginer comme si qu'il est en pleine forêt. Quand quelqu'un est en pleine forêt, est-ce qu'il va se demander, est-ce que tu penses que l'arbre qui est à côté de moi, il prie lui aussi? Pas du tout. Quand tu pries, ça vous est déjà arrivé de prier dans la forêt ou dans la montagne?
Oui.
Tu pries, c'est toi et Dieu. You and God.
Les animaux.
Eh ben, qu'est-ce qu'il disait ce tzadik? Il disait la force. Il faut être capable que même quand tu es à la synagogue et qu'il y a un environnement autour de toi, tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui peuvent te perturber. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, il faut que tu t'imagines comme si que tu étais dans une forêt, d'accord? Et qu'il n'y a personne autour de toi.
J'ai compris d'où ça sort, Rabbin des Bois.
Et comme il dit, et ça, on sait que les chassidim de Breslev, ils aiment beaucoup l'Hitbo des Doutes.
Bon de doutes, ils vont dans la forêt,
Il y a un grand secret. Il y a un grand secret dans l'Hitbo des Doutes.
Je suis sûr que lui
c'est quoi le grand secret dans l'Hitbo des Doutes? Le grand secret de l'Hitbo des Doutes, le concept de l'Hitbo des Doutes, c'est ça. C'est de dire que de ne pas être dérangé par l'environnement. L'environnement qui est autour et d'aller dans un endroit dans lequel l'environnement qui est autour de toi, c'est la nature. Donc tu ne vas pas être dérangé par la nature. Tu ne vas pas dire, est-ce que tu penses que l'arbre autour de moi, il prie? Tu penses qu'il me regarde?
Il prie. Très bien,
mais ça, tu ne fais pas attention à l'arbre. Ça, c'est ce qu'il voulait dire le tzadik. Bon, dans la chassidut rabbane en général, on n'est pas trop pour Hitbo des Doutes. On n'est pas trop pour Hitbo des Doutes, mais à certains moments, oui. Par exemple, au moment du Kriyat Shema la Mita, d'accord, Kriyat Shema du soir, c'est lui que de temps en temps, tu vas faire Hitbo des Doutes, tu mets dans un coin et tu fais ton Kriyat Shema tranquillement, avec Rejbon Nefesh. En réfléchissant, en analysant, est-ce que je me suis bien comporté, est-ce que j'ai pas bien fait? Discrétion. Parce que dans la Chassidut Rabbane, on donne une grande importance à la discrétion. On dit que si tu fais quelque chose et que tout le monde va remarquer, t'as tout perdu. Bon, ça se vaut, c'est...
Il y aura.
Ça existe, d'accord?
Chacun a son chemin.
Je dis pourquoi on n'en parle pas dans le
Tanya. Dans la journée.
Sans que personne remarque.
Et avec Kriyat Shema tout seul.
Pour la nuit surtout.
Non, parce que le Baal Shem Tov faisait Hitbo des Doutes. Le Baal Shem Tov, on sait que depuis depuis qu'il était petit, il avait un besoin de s'isoler. C'est pour ça que vous savez que le Baal Shem Tov quand il était à l'école, ses maîtres croyaient qu'il était pas normal. Bah oui, vous avez déjà un enfant qui a besoin de s'isoler. Il avait besoin de s'isoler.
Il était à l'époque un introverti.
D'accord.
Il dormait la journée.
Non, j'ai pas dit ça.
Moi, je dis, ouais,
il avait besoin de s'isoler. Imaginez-vous un gosse, d'accord, à 6-7 ans. Il dit, papa, enfin son père était déjà niftar, d'accord? J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'aller à la forêt, j'ai besoin de parler avec Dieu.
C'est un
illuminé. Jnoun. C'est Shalom, c'est Baal Shem Tov.
Bien sûr.
D'accord? Puis c'est ça. C'est pour ça que le Rabbi Nachman de Breslev, qui est le petit-fils du... Tu sais que c'est très important à l'Hitbo des Doutes.
Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, à Mavdil, en primaire, il y avait un garçon, un juif, et il était comme ça, toujours tout à fait isolé.
Oui, on devait le prendre pour un...
On le prenait pour un retardé. Ouais. Il fait partie des 10 personnes les plus intelligentes au monde, aujourd'hui.
Ça empêche de...
Mais il était isolé. Incroyable, hein?
Comme disait ma mère, donc peut-être que c'est un compliment.
Est-ce que vous êtes dans le wouzou? Alors, c'est pas bon.
On dit comme ça. On dit que la personne, c'est ça, la personne, imaginez-vous que je viens à la synagogue, et j'ai besoin de sentir un peu l'arsum comme ça, de sentir qu'il faut que je fasse cette fille-là. On te dit, tu vas t'imaginer comment Akadosh Baruch Hu est big, très très grand. Et que ce grand Akadosh Baruch Hu maintenant, il zoome sur toi. Tout le monde te regarde. Tout le monde attend de voir ce que tu vas faire. Ve'ala bifra. Tout le monde a été créé pour toi. C'est pas de l'égoïsme, au contraire. C'est pour montrer ta harayut, ta responsabilité, ton pouvoir. Qu'il y a des choses, comme on avait dit là, il y a 2 semaines au nom du Baal Shem Tov, qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux faire. Et on attend de voir si tu vas les faire ou pas. Ve'ala bifra. Ve'hu gamhu. Mekabel alav malchuto, liyot melechala, voule of dovela sadratsono, bechol mine avodat aved. Donc, la suite de la réflexion, il dit, puisqu'il y a un Dieu qui est tellement grand, et que ce Dieu qui est tellement grand, il a zoomé sur moi, donc il va s'imaginer, que c'est comme s'il y a un grand roi, et ce grand roi, imaginez-vous, la vie, le roi Achashverosh, Molech, Modou, Vatkou, 127 pays, ce grand roi qui est Achashverosh, il est venu toquer à ma porte chez moi à la maison, 2 rue Paul Enfer, il est venu ici, et il est venu me dire, Mendy Assouline, j'ai envie de te voir maintenant. Et il me regarde, il dit, vas-y, j'ai envie de te voir. qu'est-ce que je fais? Et il me dit, j'ai envie de te voir maintenant, fais ce que je te demande. Liot Melechalav, ou le Ovdo Vela Asat Ratsunot Pralmina Vadataved. Quand je m'imagine que ce roi qui a tellement de pouvoir est en train de me regarder, qu'est-ce qui va se passer? Je vais éveiller un sentiment en moi, ou bien au moins je vais réfléchir au fait que si c'est comme ça, il faut que je fasse ce qu'il me demande. Ça c'est en gros, ce que la personne doit réfléchir. On va rentrer dans les détails, mais c'est le concept en gros. Le concept en gros, ça veut dire que c'est en trois étapes. Première étape, j'imagine comment Dieu est grand. Dieu est très très grand, selon où, jusqu'à où mon cerveau peut aller. Deuxième étape, j'imagine comment ce grand Dieu, il s'est focalisé sur moi, il me regarde à moi. D'accord ? Voilà. Et troisième étape, d'accord ? Troisième étape, il y en a qui sont déjà arrêtés à la première, c'est ça ?
Non.
Voilà, on parle Benoni, hein.
Ça s'est arrêté à la première, je te dis.
D'accord.
Je te garantis.
J'ai déjà essayé, ça marchait.
De quoi ?
Ça ?
Ah bon ?
Ça marche, oui. Essaye, tu vas voir.
Et au bout d'un moment,
en 30 secondes, ça marche. Mais fais pas devant tout le monde. Tu fais tranquillement, quand tu sors, en 30 secondes, ça marche.
Bon.
Mais sérieusement, c'est-à-dire sans qu'il y ait personne autour de toi, 30 secondes, tu réfléchis sérieusement, ça marche. Au moins, tu réfléchis. Juste, on t'a pas dit de sentir.
Très bien.
Donc, troisième étape, c'est quoi, hein? C'est que je me dis, si ce Dieu qui est tellement grand a décidé de se focaliser sur moi et qu'il est là, il me regarde. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce cas-là, j'ai pas le choix, c'est ça la crainte. Éved. Le Éved. J'ai pas le choix. Je suis un serviteur, je suis un esclave d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. C'est ça en vérité, j'ai pas de libre arbitre.
Tu commençais, ça m'a fait un petit son, donc j'ai arrêté.
Moi?
Je me suis commencé à réfléchir à tout, ça m'a fait des...
Non mais essaye, ça marche tous les coups. Ça marche. Donc, je réfléchis, d'accord, je réfléchis à ça, et après je dis, puisque ce Akadosh Baruch Hu qui est tellement grand me demande de faire une mitzvah, donc j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu a été gentil avec nous, qu'il a dit bien que normalement vous êtes obligé de faire, moi je suis gentil avec vous, que je vous laisse avoir un statut de serviteur qui va de temps en temps kiffer, et comprendre pourquoi ce qu'il fait c'est bien, je lui laisse kiffer. Mais en vérité, au bout du compte, vous êtes mes serviteurs, hein. Que tu veux ou que tu veuilles pas, il faut faire la mitzvah. C'est ça. C'est pour ça que tu l'as démarré par la crainte. Pour te dire, au bout du compte, que tu comprennes, que tu comprennes pas d'accord, tu vas faire la mitzvah. C'est comme ça. C'est-à-dire comme ça. Je vais essayer d'expliquer ça un peu mieux. De manière générale, l'homme naît égoïste. Comme il naît égoïste, il croit que tout le monde tourne autour de lui. Et quelque part, même Dieu, il tourne autour de lui. C'est pour ça qu'il va dire, je vais faire une mitzvah à Dieu, et Dieu va me donner une récompense, tout tourne autour de moi. En vérité, on réfléchit comme ça. Je vais faire une mitzvah pour Dieu, bon mais Dieu, il faut qu'il me rende. Ça veut dire que tout tourne autour de moi, je suis égoïste, moi j'ai donné à Dieu, et Dieu, il doit me donner. Voilà. Là, on te dit, premièrement, on te dit en commençant, on te dit, ça marche pas comme ça. Ça, c'est de l'amour, ça. Ça, tu réfléchis comme ça, tu réfléchis comme les gens qu'ils aiment. Les gens qu'ils aiment, tout tourne autour d'eux. Donc dès qu'ils aiment plus, ben ils zappent. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas toi le focus du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Le point central du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu dois faire ce que lui il a envie, c'est pas lui qui doit faire ce que toi t'as envie. C'est de l'autre sens. C'est ça. Et c'est à ça que je réfléchis. Je réfléchis au fait que tout tourne autour de ce grand Dieu qui est big. Et ce grand Dieu s'est mis devant moi. Et il attend de voir ce que je fais. Comme il dit ici. Vehine Hashem Nitzavalav. C'est un verset qui est très populaire dans la Chassidut Rabbad. Vehine Hashem Nitzavalav. Alors, Dieu est présent sur lui. C'est pour reprendre le verset dans le Chumash Bereshit. D'accord? Nitzavalav qu'on dit à propos de...
Moussula.
D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Veine Hashem Nitzavalav. Akadosh Baruch Hu se tient sur moi. Il est là sur moi. Umlo kolaret kvodo. Et c'est pas simplement ce Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ce Akadosh Baruch Hu, il emplit la terre. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui est là, qui est physique, qui est palpable, qui est réel. Ce Akadosh Baruch Hu est là, est devant moi. Ou m'habite à lave. On va développer ça. Ce Dieu me regarde, me scrute, m'observe. Ou bochen klayot valev. Il va analyser. Ça, écoutez bien. Il va scruter klayot valev, mes intestins et mon cœur. C'est une manière de dire, quand on dit les intestins ou les reins, ça veut dire, c'est une manière de dire ce qu'il y a de plus profond chez la personne. Parce qu'on dit que, dans la Gemara, on dit klayot yuatot. On dit que celui qui donne le conseil à l'homme, celui qui dirige l'homme, c'est ses clayotes, c'est ses reins, c'est ses reins, d'accord?
Alors?
C'est intestin aussi, en traduit. Bon.
Question du départ, il vient pas du tout.
Je veux dire quoi? Akadosh Baruch Hu est là en train d'analyser mon cœur. C'est-à-dire, même si devant tout le monde je suis clean, Dieu est en train de m'analyser et de voir ce que je fais. Im ovdo karaoui, si je le sers karaoui comme il faut. Rabbi une fois a donné un exemple dans un kinous qu'il avait fait aux enfants. Fin Kinous a des enfants de Tivat Hashem, c'était Rosh Chodesh Elul, Tafshin Mem Gimel. Et en 1983, Rabbi avait donné un exemple comme ça, un exemple très, on va dire, très réel pour des enfants. S'adresser à des
très
enfants.
Concret.
Très concret. Et il dit, imaginez-vous, il a dit à un enfant comme ça, il a dit, imaginez-vous, imagine-toi, toi l'enfant, tu te lèves le matin. Hein. Quand tu te lèves, tu te lèves le matin, hein. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que sur la table de, salle à manger, de la salle à manger, il y a un bon gâteau qui est posé. Disons, un bon beignet. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a de bon comme gâteau? Un nom de bon gâteau chez les Tunisiens. Les beignets au miel. Très bien. Il y a un bon beignet. Il y a, comment on appelle ça?
Les boules au miel.
Il y a une boule au miel qui est posée.
Pas. Et si elle vient d'être faite...
Moi, cette boule au miel, l'enfant...
L'enfant,
il en a envie. L'enfant, il en a envie. Mais c'est quoi le problème? C'est que l'enfant, il ne sait pas laver les mains. Alors, il dit... Mais dès qu'il voit la boule au miel, il ne sait pas encore laver les mains. Dès qu'il voit la boule au miel, il dit, papa, je veux la boule au miel. Son père, il lui pose la question, il lui dit, est-ce que tu t'es lavé les mains? T'as déjà fait les tilat yadayim, t'as fait tes brachot, t'as lavé les mains. Alors l'enfant, il fait un calcul. Il dit, si je vais dire à papa que la vérité, que j'ai pas encore lavé les mains et que j'ai pas fait les brachot, d'accord, hein. Il y a mon petit frère qui va passer, il va le manger. Et moi, j'ai envie ce gâteau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que j'ai déjà fait les brachot. Je vais me laver les mains tout de suite, je vais lui dire que j'ai déjà fait les brachot. Et je vais prendre le gâteau. Je vais venir dans ma chambre et je vais faire les brachot. Je vais faire les brachot et après je vais manger le gâteau. Bon. Et il fait comme ça, l'enfant. L'enfant, il fait comme ça. Donc, il a menti à son père. Rabbi continue, il dit, mais quand même, l'enfant, c'est un enfant juif. Et quelques instants plus tard, il a un remords. J'ai menti à mon père.
Mais après avoir mangé le gâteau ou avant?
Certainement après.
On doit écouter l'histoire, on ne doit pas penser que c'est nous.
Après,
parce que lui, chaque histoire, il dit, c'est moi, si je fais ça, comment je vais faire?
Après, j'aurai un autre exemple pour les adultes.
Non, mais pour lui, il est bon.
Alors après, l'enfant, il va se dire, je suis quand même un enfant juif. Il a des remords.
Quand même, arrive.
Il a envie de dire à son père, papa, tu sais, je voulais le gâteau et je t'ai menti. Mais là, il a son étonnant qui vient. Il dit, non, tu peux pas le dire à ton père.
Tu vas le décevoir.
Si, tu vas dire à ton père, tu vas le décevoir.
Tu vas pas le décevoir quand même.
Non seulement tu vas le décevoir, d'abord, ton père, il va plus te croire. Il va dire, mon fils, il ment. Eh ben, je ne le crois plus. Et pas seulement ça, j'ai pas envie de faire de la peine à mon père. J'ai pas envie que mon père pense qu'il a un fils qui est menteur. Alors, je vais pas lui dire.
C'est bien.
Et la prochaine fois, je ferai attention. Là, le rabbi dit, qu'est-ce qu'il doit savoir? Comme ça, il l'avait dit aux enfants. Qu'est-ce qu'il doit savoir l'enfant? Et d'ailleurs, c'est un des 12 psukim. Vehine Hashem nitzav alav. Qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est devant toi. Akadosh Baruch Hu, il t'a vu depuis le début. Il t'a vu quand tu étais devant le beignet. Il t'a vu quand tu l'as pris sans demander à Akadosh Baruch Hu. Sans faire nettoyer la tête. Il t'a vu quand t'as menti à ton père. Il t'a vu. Akadosh Baruch Hu est en train de te voir maintenant et il attend de toi. Il te dit, va dire à ton père la vérité. Va lui dire que tu as menti. Va lui dire que tu regrettes ce que tu as fait, tu vas mieux te comporter la prochaine fois. Ça veut dire quoi? Toi, tu crois que tout tourne autour de toi. C'est ça le même concept que je viens d'expliquer. Tu crois que tout tourne autour de toi, mais tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te suit depuis le début. Il a donné une fois le rabbi un autre exemple. Là, c'est plus pour des adultes. Il dit quelqu'un, il a mangé de la viande. D'accord? Et 5h30 plus tard, qu'est-ce qu'il a? On amène la bonne glace. Une glace.
C'est bien, dès que l'on est rentré dans le 6ème,
une bonne glace, ralavi. Il a envie d'une bonne glace, ralavi. D'accord. Très bien. Lui, c'est un... alors, il a tout de suite dans sa tête, il va réfléchir, il dit, il y a des décisionnaires qui permettent après 3 heures. Il va dire, non, mais moi, je suis un juif religieux, je suis au top orthodoxe, j'attends 6 heures. Il attend 5h30, 5h31, 5h32, arrive 5h59.
Bon, moi, mais les glaces, hein.
Et là, à ce moment-là, il a envie de sa glace. Il a vraiment envie de sa glace. Il dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant? Je mange la glace, qu'est-ce qu'il y a? De toutes les façons, il y a des décisionnaires qui permettent. Qu'est-ce de te rappeler à ce moment-là, hein? Vehi, ne Hachem, ni Tsavalav.
Prends un adulte, ça.
Ouais, prends autre chose pour
un adulte. Dieu, il te regarde.
On va prendre les adultes.
Il y a plus de pour les adultes.
J'ai pas envie de donner d'autres exemples.
Ah, c'est pas de cette glace que tu parlais.
Qu'est-ce qu'il te dit? Dieu est en train de te mater.
Mater. Ouh, ça y est, il a changé de terminologie.
Flirt, maté.
Maté, c'est des questions graves, hein.
Dieu est en train de te regarder. Dieu, depuis le début, il te voit. Il t'attend. Il t'observe. Il t'a vu à 3h, il t'a vu à 3h30, il t'a vu à 4h, il t'a vu à 5h, il te voit.
Il a vu que j'ai ouvert.
Et Dieu, il te dit, attends encore une minute. Attends. c'est là que quand tu as des difficultés que tu te rappelles, Vehin et Hashem Nitzavala Vakadosh Baruch Hu se tient en face de moi. Et ça, c'est, ça marche à tous les coups. Quand une personne sent qu'il a des difficultés, il sent que avec l'amour ça marche pas. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis à 5h59, tu me dis fais-le par amour pour Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai donné un exemple avec une glace, mais on peut trouver d'autres exemples, d'accord ? Et ça va, laisse-moi tranquille. Maintenant, Dieu, il y a d'autres amours. C'est ça qu'il faut réfléchir. Vehin et Hashem Nitzavalav. Akadosh Baruch Hu est là, est présent devant moi. Il me regarde, il me scrute. Il regarde à l'intérieur de mon cœur. C'est-à-dire, Dieu, il te dit, je sais que toi, tu vas croire que tu vas regarder, tu vas faire des choses sans que personne t'a vu. Moi, je te regarde, je sais ce qui se passe chez toi. Je sais ce qui se passe chez toi. Im ov do karaoui, je vais vérifier, im ov do karaoui, si tu sers à Kadosh Baruch Hu karaoui comme il faut. Ve'alken, c'est pour ça. Je finis avec ça. Tsarich la avod le fanav be'ema ou ve'ira ke omed jna meler. Il faut servir à Kadosh, il faut se tenir devant Kadosh Baruch Hu avec crainte. Et avec, je suis curieux de savoir comment il, avec peur et avec crainte, qui est omed l'ifna amelar, comme si qu'on était, comme si qu'on se,
et le froid.
Ah, bien, bien, bien.
Oh, ah. Ça nous chauffe, cette histoire.
Qui est omed l'ifna amelar, comme si que j'étais debout devant le roi. Alors, le début du Perek Memalef, ça c'est le début du Perek Memalef, le rabbi conseillait souvent aux élèves de Yeshiva et en général aux gens de le réciter par cœur, jusqu'à ici, qui est omed l'ifna amelar, de le réciter par cœur avant la tfila. C'est que moi, quand j'étais à Yeshiva, on l'a pris par cœur, je le connais par cœur jusqu'à aujourd'hui. En général, tous les matins avant la tfila, je le récite. Depuis Bram jusqu'à Komed Ifna Meler.
Pourquoi
par cœur dans les mots.
Pourquoi devant la tfila?
Parce que, avant la tfila, parce que c'est plus
dur. Parce que c'est la mise en train, allons.
Non, je dirais avant la Vera, c'est plus efficace.
Non, avant la Vera, c'est fini, le Tzara était déjà pris, il va te dire, on n'a pas
de...
Après, tu verras.
C'est ça.
C'est idole.
Et ça, on l'a pris par cœur, la Yeshiva. Juste ces quelques lignes. Après, dans les... C'est une tégoula.
Ça dit Cosman. Il sait qu'il a le temps avant la Vera de dire ça. Oui. Non, mais quelle maîtrise il a.
Avant la Vera, il y a un dixième de seconde.
Oui, non, mais...
Mais là, il faut le dire par cœur. Brave, c'est faire les écarotamides, réchit à vote avec Arabe, cherche avec vous, Kav, Shaira.
Il sait qu'il a le temps avant la Vera de dire tout ça.
Il y a toujours un petit...
Pardon ?
Non, c'est pas très long, mais quand même, il faut connaître.
Pour toi, Julien, c'est une histoire de 10 minutes.
Toi, c'est la gnoche, tu vas te faire...
Et c'est une ségoula particulière de prendre ces quelques lignes-là. C'est une ségoula pour avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, bon, après, attention, après, dans les lignes d'après, on va expliquer un peu plus ça, mais le concept est là. Le concept est là, le concept est là. S'imaginer comment Dieu est grand.
Le concept de qui est le satellite et qui est l'astre.
Exactement. Ben oui, parce que...
En général, on se prend pour des astres, alors que nous sommes que des satellites.
Exactement.
Mais moi, que l'astre, c'est le bon Dieu.
Je m'excuse,
mais...
Bien sûr, c'est ça. D'accord ? C'est qu'en vérité, tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu et tout ne tourne pas autour de moi. D'accord ? Et le concept est là. Trois étapes. D'abord, s'imaginer comment Dieu est grand. Ensuite, imaginez comment moi, je suis tout petit. Et que moi, bien que je suis tout petit, Dieu a mis son zoom sur moi.
Ça, c'est grande rastra.
D'accord ? Et après, puisque j'arrive à grande rastra, et ben automatiquement, quand on dit Dieu, ce Dieu-là, maintenant, il est là. Il t'attend. Il dit, allez, maintenant,
tu
c'est fini.
Tu fais quoi ?
Maintenant, tu fais pas. J'ai peur. Ça, c'est la crainte basique de chez basique, et ça, l'Admor HaZaken dira après, tout le monde est capable de le faire, même un enfant. Tout le monde est capable d'arriver à cette crainte-là.
Surtout en rachat.
D'accord ? Parce qu'encore une fois, vous avez vu comment l'Admor HaZaken est resté vraiment vague. Il n'est pas rentré dans des descriptions, de dire, va s'imaginer comment Dieu est comme ci et comme ça. Non, on reste vague, parce que c'est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, du plus grand au plus petit. Il suffit de s'imaginer comment Dieu est très grand, comment moi je suis tout petit par rapport à Dieu et comment Dieu zoome sur moi. Et là, à ce moment-là, j'ai l'arsum. L'arsum, c'est la peur, c'est ça ?
L'arsum.
D'accord ?
L'arsum, c'est avec un B, avec un I au début.
Et ça veut dire
quoi ? C'est pas la peur. Mm-hmm. Non, ça c'est la préoccupation frénétique.
Et j'ai la crainte. D'accord ? J'ai la peur, les proies.
La crainte, c'est la feujara. La feujara. Ou le chœuf. C'est bon ou pas ?
Le chœuf, voilà.
Le chœuf.
Avec le chœuf.
Le chœuf, c'est ça.
Julien, avec, quand on dit le chœuf, on fait le...
Avec les mains.
On fait les mains comme ça, voilà. Comme ça.
Le chœuf, tu sais.
Comme... Ça, c'est le concept qu'on a expliqué au début du Perek Memalef. Mon père Ezrat Hashem, on aura l'occasion, dans la suite du Perek Memalef, qui n'est pas court,
ouais.
On aura l'occasion
non,
d'Ezrat Hashem
de... C'est pas simple. Hein.
C'est très important parce que ça, ça revient à tous les coups. Les gens ils te disent, mais pourquoi dans le judaïsme, pourquoi pour faire une mitzvah, il faut la crainte de Dieu ? Pourquoi les orthodoxes, vous êtes comme ça, vous avez toujours la crainte ? Ah ouais, fais par kiff ! Arrêtez un peu ! Eh ben non, vous commencez par la crainte.